Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, on écoute Le Monde changer. Il est 7h. Et si ces violons étaient bientôt désaccordés ? Séisme au sommet de l'Europe du foot, les 12 des plus grands clubs annoncent qu'ils vont faire sécession. Sécession, oui, et lancer leur propre compétition fermée, boycottant ainsi la Ligue des Champions. Colère de très nombreux acteurs ce matin. Et pour vous aussi, dans l'édito sport à 7h20, Virginie Fulpin.
Et le football est mort, hier soir en tout cas, celui qu'on connaît. La Super Ligue européenne n'est pas un séisme dans le foot, c'est la négation même de ce sport.
Lui promet plus de bleus sur le terrain d'ici 2022. Emmanuel Macron joue la carte sécuritaire à un an de la présidentielle. Et esquisse ce qui est peut-être un nouveau slogan dans une longue interview au Figaro. Dans ce journal, Europe 1 à Gibraltar, premier territoire européen libéré du Covid. Et puis l'homme parviendra-t-il à faire voler un appareil sur une autre planète que la Terre ? La NASA tente l'exploit avec un hélicoptère sur Mars. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Daniel Fortin, suivi du regard international de Vincent Hervouet.
Ouais, le conseiller du président algérien sur les questions mémorielles accuse la France d'avoir répandu l'analphabétisme dans son pays. Il faut être deux pour se réconcilier et Alger n'a visiblement pas très envie.
Et puis avant 7h30, nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le football européen est donc en pleine guerre de sécession. 12 des plus grands clubs du continent, le Real Madrid, le Barça, Manchester United, la Juventus Turin, annoncent qu'ils prennent le large. C'est l'information de la nuit. Bonjour Lénaïque Monnier.
Bonjour.
Ils vont créer leur Super League, leur propre compétition fermée et boycotter la Ligue des Champions.
Voilà, en gros, le gratin du foot européen va lancer une sorte de compétition club VIP en circuit fermé, comme cela existe déjà en NBA aux États-Unis, une façon de faire à nouveau rentrer des sous, car les 12 clubs fondateurs se chargeront de commercialiser les droits TV et marketing de la Super League, tout en gérant de A à Z la compétition. C'est une déclaration de guerre à la très puissante mais vieillissante UEFA, qui se réunit en plus aujourd'hui en comité exécutif, justement pour dépoussiérer sa compétition phare, la Ligue des Champions, peut-être un peu trop tard.
Alors plus de réactions depuis l'officialisation de cette annonce de Super League à 0h03 cette nuit. L'UEFA, notamment l'instance du foot européen, condamne évidemment fermement.
Oui, avec des actes forts, l'UEFA bannira tous les clubs dissidents, mais pas seulement, leurs joueurs en sélection nationale également, comme à l'Euro par exemple, preuve que la menace est prise au sérieux. L'UEFA, qui d'ailleurs n'a pas manqué de remercier les loyalistes comme le Bayern Munich ou le Paris Saint-Germain, qui sont restés dans son giron. Et puis effectivement, même son de cloche politique, puisque l'Élysée vient communiquer, c'est également réjoui de voir les clubs français ne pas participer à cette compétition qui n'a pas encore le moindre calendrier.
Merci Lénaïque Monnier, on imagine effectivement que ça va encore batailler ferme entre les clubs, les gouvernements donc et les fédérations.
L'actualité politique à la une également ce matin et cette interview fleuve d'Emmanuel Macron dans le journal Le Figaro.
Et un thème, la sécurité à un an de la présidentielle, campagne lancée avec ce possible slogan, le droit à la vie paisible pour lequel se bat, dit-il, le chef de l'État qui déclare la guerre au trafic de drogue, défend son bilan en matière de création de postes de policiers avant un déplacement sur le terrain aujourd'hui à Montpellier. Hélène Terzian.
Chaque Français verra plus de bleus sur le terrain en 2022 qu'en 2017. Dans les colonnes du Figaro, Emmanuel Macron l'assure, l'objectif de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires fixés au début du quinquennat sera tenu. Plus de 6 200 ont déjà été recrutés, ils seront 2 000 cette année. Le président défend son bilan, plus de moyens aux forces de l'ordre pour mieux quadriller le territoire. Tous ont le droit de prétendre à une vie calme où qu'ils habitent, insiste le chef de l'État. Je me bats pour le droit à la vie paisible. Pour cela, il fait de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la mère des batailles. Ne laisser aucun répit aux trafiquants, les harceler, une stratégie qu'il estime payante. Chaque jour, nous fermons un point de deal, se réjouit-il. Le président cible aussi le petit deal, la consommation. Dans le Figaro, le chef de l'État dit d'ailleurs vouloir lancer un grand débat national sur la consommation de drogue et ses effets délétères. On se roule un joint dans son salon et à la fin, dit-il, on alimente la plus importante des sources d'insécurité.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1.
Et avant la Je vous rappelle au passage que Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, sera l'invité de la matinale à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. Avant la présidentielle, il y a déjà les régionales qui se profilent. On poursuit notre Tour de France sur Europe 1. Après notre sondage en région Provence-Alpes-Côte d'Azur la semaine dernière, notre étude IFOP pour la Normandie ce matin.
Qui donne là aussi un second tour entre la majorité sortante et le Rassemblement National. Sauf qu'en Normandie, la liste de centre-droit d'Hervé Morin conserve une certaine avance, 31% face au RN Nicolas Bay à 26%. Le décryptage de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
Par rapport à 2015, Hervé Morin bénéficie d'un bilan régional jugé très satisfaisant avec le sentiment qu'il met l'identité normande au cœur de son action. Ce qui est très intéressant, hein, ces élections marquent la fin d'un processus, d'un cycle où on a vu le fait régional s'imposer. Il y a quelques années, quand on demandait aux Français quel est l'échelon territorial de trop, ils citaient parfois la région ou le département. Ils ne citent plus jamais la région. La période du Covid a amplifié cette tendance où les Français ont mis en regard un État central plutôt dysfonctionnant, qui manquait de souplesse et d'efficacité, et des régions efficaces, proches des gens. Et on voit cette logique de municipalisation, ce qui veut dire que les motivations de vote aux élections municipales, un projet, un bilan, une incarnation, deviennent maintenant par homothétie des motivations de vote très fortes pour les élections régionales du 20 et 27 juin.
Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, il répondait à Marion Gauthier.
7h06 sur Europe 1. Sur le front de l'épidémie, on approche des 13 millions de Français ayant reçu une première injection. C'est un cinquième de la population.
Bien loin du score de Gibraltar, où on vous emmène ce matin. Alors certes, le volume de population n'est pas le même, mais l'enclave britannique en Espagne est le premier territoire d'Europe à avoir réussi à éradiquer le virus. Et on a choisi de vous y emmener ce matin avec ce reportage d'Henri Delaguéry. Les 34 000 habitants adultes de l'enclave sont vaccinés et toutes les restrictions, ça y est, sont levées.
Ça va très bien, c'est génial de retrouver la vie normale, je pensais que ça n'arriverait plus.
Et pourtant Nadine a bien retrouvé sa vie d'avant en bord de mer, sous un soleil éclatant, elle boit un cocktail en terrasse avec une amie. Et toutes les tables sont remplies, les masques ont disparu, le gel hydroalcoolique aussi. Comme tous les plus de 16 ans de Gibraltar, cette quadragénaire est vaccinée.
On a beaucoup de chance, on ne s'était pas vu depuis des mois avec mon amie Claire. C'est chouette de retourner au bureau, de voir des gens, des amis, bref, de socialiser.
Et hier, le public a fait son retour au stade, le couvre-feu a été levé, il n'y a plus un seul malade Covid à l'hôpital et cela fait plus d'un mois que le Rocher n'a pas enregistré de nouveaux cas. Majid vit en Andalousie mais il passe la frontière tous les jours car il travaille ici dans une entreprise de jeux en ligne. Comme les 15 000 frontaliers, ce Français de 33 ans a pu se faire vacciner.
C'est incroyable, on fait la queue 2 minutes, on va dans une salle d'attente, on reçoit la dose. En 15 minutes, j'étais vraiment rentré et sorti avec la première dose.
Comment vous sentez ?
Ça fait vraiment du bien.
Grâce à cette immunité collective, Gibraltar savoure donc sa liberté retrouvée et peut envoyer un message au reste du monde.
Je souhaite à tout le monde de pouvoir retrouver comme nous une vie normale. J'espère que tout le monde sera vite vacciné.
Bonjour Henri Delaguéry.
Bonjour Théo.
On vous retrouve en direct de Gibraltar, Henri. On a entendu cet air de libération. Alors comment est-ce que cette petite nation a réussi à vaincre le virus ?
Alors Mathieu, déjà il y a la discipline collective, le virus a tué près de 100 personnes, ici 13% de la population a été contaminée, les confinements ont été très stricts mais ils ont été respectés. Et puis il y a cette opération Freedom, liberté, une campagne de vaccination éclair, coordonnée avec Londres, 12 avions de la Royal Air Force ont acheminé les vaccins Pfizer et AstraZeneca, une opération suivie en direct par les habitants qui se mettaient à leurs fenêtres pour voir les appareils atterrir, les 3 centres de vaccination ont ouvert leurs portes 7 jours sur 7. Résultat aujourd'hui, cette immunité collective commence à faire tache d'huile puisque le sud de l'Andalousie, frontalier avec Gibraltar, voit l'épidémie reculer.
Merci Henri Delaguéry, envoyé spécial d'Europe 1 à Gibraltar.
Alors que chez nous, les contrôles se durcissent à partir d'aujourd'hui dans les aéroports français. Quarantaine de 10 jours obligatoire pour tous les voyageurs arrivant du Brésil, d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Sud, mais aussi de Guyane. Au volet judiciaire, la mère de la petite Mia, toujours en garde à vue en Suisse ce matin en attendant son extradition. 5 hommes ont été mis en examen pour l'enlèvement de la fillette, retrouvée saine et sauve hier dans un squat près de Neuchâtel. La fillette va pouvoir être remise à sa grand-mère qui en avait la garde dans son village des Poulières dans les Vosges, où tous ceux qui la connaissent sont soulagés ce matin après ces 5 jours de recherche et d'angoisse. Arthur Elmbaché.
En toute discrétion, la grand-mère de Mia a quitté sa maison ici aux Poulières hier après-midi avec une petite valise pour aller vivre pleinement et à l'abri des regards les retrouvailles avec la fillette de 8 ans, la grand-mère qui est au cœur des pensées des habitants du village.
La première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est vraiment la mamie. Ça, elle va pouvoir souffler un peu, refaire des câlins à sa petite fille. faire mettre un peu de baume au cœur. Mais je suis soulagée pour la petite aussi, quoi. Enfin, ça a dû être horrible d'être promenée justement jusqu'en Suisse, à pied, la frontière. Enfin, ça a dû être éprouvant. Quel souvenir elle va garder de son enfance, cette petite-là.
Bouga, Jeannot, Pitchoun, Roméo, le Corbeau, voilà donc les surnoms que se donnent les membres de ce groupe, ceux qui ont mis en œuvre cet enlèvement. Opération de type militaire, a dit Francis Perrin, le procureur de Nancy.
Bouga a acheté des Tokiwoki et des téléphones portables en vue de cette expédition. Il y a également du petit matériel. Pitchoun va donner donc à Jeannot un postiche. Puis ils vont se procurer également de l'équipement de camping type tente.
La mère de Mia est ce matin toujours en garde à vue en Suisse en attendant dans une semaine ou deux son extradition et sa mise en examen. Les Poulières, Arthur Elmbaché, Europe 1.
À Marseille, ce sont des voisins encombrants que les riverains aimeraient bien voir disparaître. Les navires de croisière sont immobilisés avec la crise, mais ils polluent plus que jamais.
Oui, pas de touristes à bord, mais il faut bien faire fonctionner les machines, l'électricité. Résultat, les groupes électrogènes tournent à plein régime et ils enfument tout le quartier de l'Estac où s'est rendu Stéphane Frangy.
Un panorama avec des géants des mers hackés, ce spectacle scandalise les habitants du quartier comme Patrick Borg.
Il y a des odeurs, ça se sent. Les navires qui fument et qui tournent en permanence 24 heures sur 24 avec leur groupe électrogène. Il y en a eu jusqu'à 17. Là, il y en a un qui est vraiment très gros, qu'on voit fumer noir d'ailleurs. Là, c'est concret, on se rend bien compte.
Au sein de l'association Cap au Nord, plusieurs ont installé des capteurs de particules fines dans leur jardin. C'est le cas de Guillaume Féliza qui étudie les relevés sur son ordinateur.
Lorsqu'on a 15 jours où on est exposé en moyenne à 30 microgrammes, ça veut dire que nous sommes exposés à des particules fines, trois fois plus des recommandations de l'OMS.
La solution, comme il le réclame, serait de raccorder tous les bateaux à l'électricité à quai, ce qui est prévu, mais il faudra s'armer de patience, selon Dominique Aurobin, président de l'Observatoire de la qualité de l'air Atmosud.
Ces paquebots sont assez importants, ils demandent des puissances électriques vraiment très fortes. Et donc, on a dans le programme Escale Zéro Fumée, porté par la région, l'ambition de raccorder ces paquebots. Mais oui, les actions sont en route.
Et cette généralisation des branchements électriques est attendue à l'horizon 2025. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
En bref, à l'étranger, cette réunion en urgence des ministres européens des Affaires étrangères à propos d'Alexei Navalny, l'opposant russe, risque l'arrêt cardiaque d'une minute à l'autre, selon ses médecins, en raison de sa grève de la faim entamée il y a près de 3 semaines. Washington promet déjà qu'il y aura des conséquences si le Kremlin le laisse mourir en prison.
Enfin, 118 ans après les frères Wright, cette question. L'être humain parviendra-t-il aujourd'hui à faire voler pour la première fois un appareil à moteur sur une autre planète?
C'est l'ambition de la NASA et de son hélicoptère Ingenuity qui va tenter de décoller aujourd'hui. Il est arrivé sur la planète rouge avec le rover Perseverance et il va donc tenter d'accomplir ce qui n'est rien de moins qu'une prouesse technique lors d'Autriche.
Oui, l'atmosphère de Mars est 100 fois moins dense que sur Terre et l'air extrêmement léger. Pour cette raison, il est difficile de décoller dans l'air martien. Il fallait donc construire un hélicoptère le plus léger possible pour qu'il puisse voler. Il pèse un peu moins de 2 kg et les pales de l'hélicoptère vont tourner extrêmement vite pour compenser la force de gravité qui va l'attirer vers le bas. L'hélicoptère devrait s'élever à 5 mètres de haut et faire à ce moment-là quelques figures tournées sur lui-même. Les Américains veulent montrer qu'il est possible de voler sur Mars. Et si cela fonctionne, cela pourrait être utile à l'avenir, explique Gabriel Pont, ingénieur au CNES, le Centre National d'Études Spatiales.
Après, on peut imaginer des vols motorisés à la surface de Mars pour faire des mesures de la composition du sol, par exemple, mais à des endroits très éloignés par rapport aux endroits qui nous sont accessibles avec les rovers aujourd'hui.
Le pilotage de cet hélicoptère ne se fera pas en temps réel depuis la Terre, mais le vol se fera en autonomie, puisqu'il faut plusieurs minutes pour recevoir ou envoyer des signaux de la Terre vers Mars.
Et on suivra avec vous ce décollage prévu potentiellement dès 9h30, heure française. Merci à vous, l'heure d'Autriche.
Oui, 9h30, heure française.
Je ne connais pas
les fuseaux horaires martiens non plus. Merci beaucoup, Théo Manval. C'était le journal de 7h sur Europe 1.